Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice Couturier, toujours exactement à l'heure. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous voulez nous parler de l'Union européenne depuis le début de cette semaine pour trouver l'origine de la crise de l'Union européenne dont on parlait hier. Cherchons dans les histoires de l'Europe, y compris celles qui ont été écrites au moment où nul ne doutait de la réussite du projet d'intégration, les erreurs d'aiguillage.
Oui, c'est un article publié par Timothy Garton Ash dans le numéro en cours de la New York Review of Books qui nous y invite. Garton Ash a raison de dire que Tony Judd, lui, n'appartenait pas au cercle des euro-enthousiastes. Dans son pavé « Après-guerre, une histoire de l'Europe depuis 1945 », qui a eu, lui, les honneurs d'une traduction française chez Armand Collin, l'auteur pointait nettement ce qu'il appelait l'insuffisance générale du projet européen. Le problème tient à sa conception initiale, développait Tony Judd. Jean Monnet et ses héritiers avaient délibérément évité tout effort pour imaginer, et a fortiori pour mettre en œuvre, un système démocratique ou fédéral. Le projet n'était pas politique, il était de type saint-simonien, écrivait-il encore, c'est-à-dire qu'il était axé sur un pur objectif de croissance économique, dont la réalisation était laissée entre les mains d'une armée d'experts et de fonctionnaires. Le système de décision ainsi décrit ne pouvait qu'aboutir à la paralysie, je cite encore l'ouvrage « Après-guerre ». Tout ce qui fait l'objet d'un accord tacite est abandonné à la Commission, mais les politiques susceptibles d'affecter des clientèles électorales significatives ou des intérêts nationaux sont réservées au Conseil des ministres et donnent lieu à des compromis compliqués ou à des accords onéreux. Et chaque fois qu'on ne parvient pas à trouver une solution ou un accord, on laisse le dossier en suspens. Résultat, un mélange de bureaucratie du type despotisme technocratique éclairé, je cite encore Tony Judd, et d'inertie face aux décisions les plus urgentes, ce qui a provoqué le désintérêt progressif des peuples. Ils ont déserté les élections au Parlement européen. Pourtant, aux yeux de Tony Judd, qui était social-démocrate, l'Union européenne restait une bonne chose. On trouve une analyse plus précise mais qui va tout à fait dans le même sens dans le numéro de décembre de la revue Foreign Affairs. Titré « Less Perfect Union », il est signé par un jeune enseignant de la Johns Hopkins, Mathias Matthies. Celui-ci a fait paraître l'an dernier aux presses universitaires d'Oxford un livre très commenté sur l'avenir de l'euro. Et bien pour cet auteur, la sortie du Royaume-Uni va déclencher la pire crise qu'ait connue l'Union européenne. Mais cette crise, explique-t-il, était largement prévisible et le Brexit, de même que la poussée électorale populiste, ne sont que les révélateurs de problèmes plus anciens qui n'avaient cessé de dominer la construction européenne.
Et alors, d'après lui, à quand remonterait cette erreur d'aiguillage ?
Les racines de la crise actuelle peuvent être repérées, écrit-il, dans les années 1980. Durant les décennies précédentes, les élites dirigeantes en Europe avaient favorisé la convergence entre leurs pays dans le but de restaurer la légitimité de leurs États-nations ébranlés par la guerre et les occupations. Mais à partir de cette époque, elles ont poursuivi un but autrement plus ambitieux, je cite, « forger un ordre économique supranational sur lequel régnerait une technocratie éclairée ». L'acte unique européen, signé en 1986, a reçu sa pleine application en 1992. À cette époque, note-t-il, 71% des sondés en Union européenne estimaient que le fait pour leur pays d'en être membre était une bonne chose. Eh bien ce taux, figurez-vous, qui demeure positif toutefois, est tombé aujourd'hui à 56%. C'est que les quatre libertés sont allées trop loin. Et Mathias Maetis prend cet exemple très significatif. Un coiffeur italien peut ouvrir très facilement un salon à Paris, tandis qu'un coiffeur américain qui a obtenu sa licence dans l'Ohio et qui désire déménager en Pennsylvanie devra subir une formation de 2100 heures avant de passer un examen écrit. Les États-Unis, vous le voyez, sont beaucoup moins déréglementés que nous. L'adoption de la monnaie unique est une autre cause de frustration. Les excédents commerciaux de l'Allemagne auraient dû se traduire par un renchérissement de sa monnaie, ce qui aurait rétabli mécaniquement la compétitivité de ses partenaires européens, et un pays comme la Grèce aurait au contraire dû dévaluer. Ils n'ont pas pu le faire, ni l'un ni l'autre, à cause de l'euro. Mais la pire frustration est née, dit-il, de la crise des migrants. Elle a créé parmi les peuples, je cite, « le sentiment que leur gouvernement était impuissant » et que l'UE échouait à représenter leurs intérêts. Aussi, les partis anti-immigrés ont fait une poussée. Je le cite encore, la crainte d'une immigration illimitée en provenance de pays tels que la Turquie, candidate à l'adhésion, a joué un rôle majeur dans la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. La faute principale des concepteurs de l'UE a été de négliger la puissance des sentiments nationaux. Refoulés, ceux-ci font un retour dangereux à travers toute l'Europe. Et comme l'écrivent Florent Parmentier et Cyril Brett, on ne voudra pas citer des Français pour une fois sur le site Telos, on aurait tort de croire qu'il s'agit là d'une spécialité des pays de la nouvelle Europe, celle du centre, ou d'une réaction face à la pauvreté et au chômage, car cela touche aussi bien la très riche Autriche, qui n'a jamais fait partie, qu'on sache, des démocraties populaires, que la Pologne, où la croissance est solide et le taux de chômage inférieur à celui de la France.